Radio Prague, les informations.
Bonjour, altercation entre des extrémistes de droite et des manifestants de gauche à Most, inauguration d'un cimetière pour des soldats de la Wehrmacht à Cheb et au Grand Prix de Prague, victoire d'un Marocain et d'une Tanzanienne. Samedi soir à Most, en Bohême du Nord-Ouest, un groupe d'extrémistes de droite a attaqué des manifestants de gauche qui protestaient contre la levée des limites d'exploitation dans la région. Les forces de l'ordre ont réussi à contenir les 15 extrémistes de droite, mais une altercation a ensuite vu le jour dans un restaurant. 5 extrémistes de droite ont été arrêtés plus tôt dans la journée. 3 activistes de gauche avaient également été arrêtés pour avoir endommagé des biens pendant la manifestation. Samedi, à Cheb a été solennellement rouvert après restauration à un cimetière où reposent désormais 5600 soldats de la Wehrmacht. Environ 3000 personnes ont participé à la cérémonie dédiée aux soldats tombés pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire tchécoslovaque. Le rassemblement suivi de l'inhumation des dépouilles de ces soldats avait commencé en 2008. À l'époque, la municipalité de Cheb avait signé un accord avec une ONG allemande dans ce but. Cet accord visait notamment à améliorer les relations entre Prague et Berlin sur un sujet qui demeure sensible. Samedi soir, plus de 4000 coureurs ont participé au Grand Prix de Prague, organisé par la Société du Marathon de Prague, une course à pied un peu particulière puisqu'elle se déroulait à la tombée de la nuit dans le cœur historique de la capitale tchèque. Grand vainqueur des deux principales épreuves au programme de ce rendez-vous sportif qui en est déjà à sa 15e édition, le Marocain Mourad Marofit sur 10 km hommes et la Tanzanienne Zakia Mrish sur le 5 km femmes. La Moravie du Sud, région viticole de République tchèque, célèbre ce week-end les vendanges. Les villes de Znojmo et Mikulov, dont l'histoire est étroitement liée à la fabrication du vin, organisent ce week-end leur traditionnelle fête du vin à laquelle des milliers de personnes ont participé. Les fêtes des vendanges sont l'occasion de déguster du burčak, jeune vin bourru typiquement tchèque. Même si les viticulteurs moraves sont peu satisfaits de la récolte cette année en raison de mauvaises conditions météorologiques, les festivités battent quand même leur plein tout le week-end. Et Ratmijerce, on va y arriver, dans la région de Benešov, a été élu village de l'année 2010. Ce titre va de pair avec 2 millions de couronnes pour le développement de la commune. 361 communes issues de 13 régions de République tchèque ont ainsi participé au concours du village de l'année en 2010. Le vainqueur a été dévoilé samedi dans le cadre du festival folklorique international de Lohačovice dans la région de Zlín. Ce concours est organisé depuis 1995 par le ministère pour le développement régional. Tous les villages de moins de 5250 habitants peuvent y participer. Et je vous rappelle également que pendant tout ce week-end et jusqu'au 19 septembre, ce sont les Journées européennes du patrimoine qui ouvrent leurs portes au grand public, souvent gratuitement ou contre une couronne symbolique. Il faut donc en profiter. Voilà, on finit par un mot de météo. Dimanche, jour de fête des Maries en République tchèque, la météo continue d'être belle et ensoleillée. Les maximales pourront atteindre jusqu'à 23 degrés. Là aussi, il faut en profiter. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Ne nous quittez pas, on se retrouve tout de suite pour la rubrique culturelle.
Culture sans frontières. Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique culturelle. Andrea Sedláčková vit une double vie. En France, monteuse de grands films à succès, en République tchèque, réalisatrice de films. Nominée au César cette année pour le film Welcome de Philippe Lioret, elle travaille à l'heure actuelle sur le scénario Des Lâches de Josef Skvoretsky. Le monde de ce grand nom de la littérature tchèque, elle le connaît bien, puisqu'en 2009, elle a réalisé Rytmus v patách, le rythme au talon, qui s'inspire de récits de l'écrivain tchèque. De cela, de ses débuts en France, de la révolution de velours qu'elle a ratée et contre toute attente du caractère similaire des Tchèques et des Français, de tout cela, il a été question dans l'entretien qu'elle nous a accordé et dont nous vous proposons cette semaine la première partie. Andrea Sedláčková est d'abord revenue sur sa décision d'émigrer quelques mois avant ce qui allait être la révolution de velours.
Prendre la décision, c'était pas une chose simple, évidemment. Et il y avait multiples raisons. Il y avait des raisons parce que je croyais d'être virée de mon école de cinéma de Prague que je faisais à l'époque. Parce que la situation en République tchèque était immobile et je croyais qu'elle va rester immobile pendant des années. Parce que
Vous pensiez ne pas avoir d'avenir ici?
Oui, oui. Je pensais avoir l'avenir des gens que je connaissais, les gens de dissidents, les femmes qui écrivaient à la maison le soir et qui faisaient le ménage dans la journée. Et en fait, parce que je voyais que pour moi, il n'y avait pas la perspective de pouvoir vraiment collaborer avec le système dans la structure officielle, que je m'éloignais de plus en plus de ça, de cette idée de la vie. Mais en même temps, l'autre idée de la vie ne me plaisait pas non plus. Et je me disais, voilà, je ne veux pas cette vie-là, je veux une vie de liberté d'expression, de liberté de voyage. Sinon, il y a Pavel Tigrit, qui était en fait un rédacteur en chef d'une revue littéraire à Paris pendant 20 ans, qui disait qu'on a tous demandé l'asile politique, pas à cause de la politique, mais qu'on a essayé tous d'échapper à nos parents.
Est-ce que vous avez essayé d'échapper à nos parents?
Je pense qu'en fait, en profondeur, c'était aussi une des raisons.
Une espèce d'émancipation.
Oui. Et en fait, je réfléchissais aussi sur le choix du pays, parce que je parlais pas un mot français. Et en fait, je suis d'abord allée en Angleterre, parce que je parlais anglais. Et je me promenais à Londres et je me disais, mais je veux absolument pas vivre dans ce pays où on boit que la bière et le whisky, et je ne bois que du vin. Voilà, j'ai repris le bateau, en fait. Et je me suis dit, est-ce que ça sera plus raisonnable d'aller en Allemagne ou en Autriche, parce que aussi, je parle allemand, mais ça me plaisait pas du tout. Je me disais, c'est tellement éloigné de mon caractère. Et je trouvais ça assez extraordinaire, ce moment-là, qu'en fait, je savais que je peux décider. Vraiment, comme si vous pouviez décider où vous allez naître. Est-ce que je vais décider de naître aux États-Unis ou en Angleterre ou en Autriche ou n'importe où dans un autre pays? En fait, j'aurais pu aller où je voulais. Et j'ai décidé la France parce que j'aimais bien la littérature française et le cinéma français, mais je parlais pas un mot français. Je connaissais quelques personnes, heureusement.
C'est une bonne raison aussi de déménager pour la littérature, enfin, notamment. C'est une belle inspiration. Donc, vous parliez pas un mot de français, c'est ce que vous dites. Mais vous avez fait la FEMIS. Alors, du coup, vous avez fait une école de montage. C'est pour une question de langue, justement, que vous avez choisi plutôt...
J'ai passé une année à apprendre le français. J'ai passé après le concours à la FEMIS et j'étais acceptée. C'était un espèce de miracle qui arrive dans la vie. Et j'ai choisi le montage parce que ça me paraissait, en fait, le plus proche de l'écriture, parce que j'ai étudié le scénario à Prague.
Mais c'était difficile d'écrire des scénarios en français?
C'était pas possible, c'était pas possible. Et aussi, je me suis dit, j'ai fait des études de scénario pendant 3 ans, c'est pas la peine que je continue à faire les mêmes études. J'avais pas assez de confiance en moi-même de me lancer en réalisation, voilà. Mais je suis très contente de mon choix.
Les débuts, c'était comment à Paris? Alors vous dites en effet, vous parliez pas un mot, vous avez appris petit à petit, c'était une vie un peu bohème, un peu...
J'avais beaucoup de chance. Je dois dire vraiment que comme je vois de temps en temps maintenant les reportages des sans-papiers, des gens qui vivent vraiment des galères énormes en France, qui essayent d'avoir l'asile politique, qui n'ont pas, même s'ils ont vraiment vécu des enfers dans leur pays. Je dois dire que moi, j'étais une privilégiée. J'ai eu l'asile politique très, très vite. J'ai rencontré, justement, grâce à Pavel Tigrit et sa maison d'édition de témoignages, je rencontrais des Tchèques qui ont sympathisé avec moi, qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé, qui m'ont donné une bourse pour que je puisse étudier le français dans les bonnes conditions. Bon, j'ai gardé les enfants, j'ai joué dans le métro, j'ai chanté dans le métro. Bon, j'ai travaillé, je faisais des choses que j'aurais jamais fait à Prague, par exemple faire le ménage. Évidemment, c'est un petit peu nouveau pour moi. Je m'en suis assez vite sortie, j'habitais tout de suite dans le centre de Paris, non, c'était très bien. Voilà, j'avais pas de sous. Je me souviens que la première année, j'achetais toujours 3 boîtes de raviolis en boîte, et ça, c'était mon repas pour la semaine.
Vous êtes partie avant la révolution, quelques mois auparavant, mais du coup, alors cette révolution de velours, que tout le monde devait attendre aussi, sans savoir peut-être qu'elle allait arriver, vous l'avez vécue depuis Paris?
Je l'ai vécue depuis Paris. Mais je l'ai vécu comme une espèce d'une personne sourde, comme je parlais pas mon français. C'était terrible. Je me souviens que j'ai regardé les journaux que je pouvais même pas acheter parce que j'avais vraiment pas de sous. Mais j'ai regardé les premières pages du journaux, j'ai vu les photos. Mais je comprenais pas exactement ce qui se passe. À l'époque, évidemment, téléphoner, c'était exclu. Ça coûtait une fortune. Alors j'allais au témoignage de la maison d'édition et là on apprenait chaque jour un petit peu de nouvelles de Prague, qu'est-ce qui s'est passé. Moi j'avais pas mon passeport parce que quand vous demandez l'asile politique, vous déposez votre passeport. J'ai demandé l'asile politique le 2 septembre 89 et j'ai commencé à travailler pour la radio Free Europe à Munich. Depuis Paris, oui. Du coup, eux, après, ils m'ont donné le papier. Je pouvais avoir très vite le passeport avec lequel je suis arrivée à Noël. C'était un passeport provisoire et je suis arrivée à Prague.
Qu'est-ce qui vous a frappé?
C'était une souffrance terrible, terrible, parce qu'évidemment, j'avais l'impression de rater ma vie, de rater l'histoire, voilà, de tout faire mal de ma vie, de rater la plus belle chose de ma vie, de... J'avais l'impression d'avoir trahi mon pays. Mais justement, comme même à Noël, je ne parlais pas un mot en français encore, parce que ça allait pas si vite. Je me suis dit, non, il faut que je reste au moins un an en France, que j'essaye de faire mes études en France, que j'essaye de positiver cette expérience, de faire une espèce de contrebalance avec ce malheur.
Et vous étiez en contact, par exemple, avec les personnes ici qui faisaient finalement la révolution? Est-ce que vous aviez...
Oui, bah, je les connaissais
vous
tous.
Oui, vous l'avez vécu, par eux, finalement, d'une certaine façon.
Je les connaissais tous. J'avais quelques coups de téléphone. J'avais beaucoup de correspondance parce qu'à l'époque, on écrivait beaucoup de lettres. Je me dis chaque fois que je devrais le transcrire et publier parce que c'est vraiment... J'ai des lettres de beaucoup de futurs révolutionnaires. Et après, c'était des révolutionnaires et post-révolutionnaires. Et d'ailleurs, je me suis posé la question si je ne devrais pas revenir, rentrer dans la vie politique, parce que j'avais beaucoup de copains qui sont devenus politiciens, qui sont restés même politiciens. Et moi, ça m'intéressait beaucoup et je trouvais ça que c'était un service à rendre au pays. On avait à cette époque-là cette idée-là de la politique, que c'est une chose noble et importante et que ça peut être même pour nous. Parce que maintenant, je pense que c'est le contraire. On pense que c'est vraiment que pour les gens absolument nuls. Mais bon, voilà. J'ai décidé de poursuivre ma petite vie française.
Assez intéressant. Je vais faire juste une petite digression sur vous, votre portrait. Mais finalement, c'est intéressant aussi d'avoir votre point de vue. Vous dites, voilà, qu'à l'époque, c'était... l'idéal de la politique était noble. Je suis d'accord avec vous. Moi, quand je lis ou quand j'ai un peu étudié aussi, voilà ce qui s'est passé à l'époque, hein, pendant la Révolution de velours. Bon, c'est évidemment incarné par Václav Havel notamment. On sent qu'il y avait vraiment cette espèce d'engouement et de foi finalement dans la politique, ce qui n'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. Comment est-ce que vous expliquez cette espèce de gueule de bois?
Mais est-ce que la politique est vraiment noble? Je ne sais pas. Je ne sais pas si en fait... Parce que c'est dans tous les pays pareil. Dans tous les pays, on a cette idée-là que les politiciens doivent être une espèce de vierge, de gens absolument extraordinaires. Et on voit que non, qu'ils sont pires que les autres. Et je sais pas. Est-ce que la politique, en fait, elle peut vraiment... Est-ce qu'elle peut être faite par les gens bien? Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que Karel Schwarzenberg, je le trouve bien. Voilà, c'est un de derniers survivants, c'est le dernier Mohican.
Vous suivez un peu ce qui se passe justement en République tchèque
Ah, tout le temps, moi je suis abonnée à Týden, que je reçois chaque semaine dans ma boîte à lettres. Et sinon, évidemment, je regarde Internet et je viens assez souvent. Et j'adore la presse écrite. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient à Paris, et c'est en fait en permanence, je demande toujours, vous m'apportez tous les magazines, les journaux. J'aurais pu être journaliste. J'adore ça.
On sait jamais, hein. C'est peut-être une vocation future si jamais vous décidez de vous reconvertir.
Ben oui, mais c'est pour ça que je travaille pour la radio Free Europe.
Ça vous a plu cette expérience, justement?
J'ai fait quelques reportages. C'était très court. Mais je me souviens qu'en fait, j'ai montré mes textes à Pavel Tigrid et lui, il m'a donné des premières. Il disait que ça, il faut faire comme ça, les phrases ici, voilà, ici, il manque le centre un peu plus dynamique. C'était le début. Mais je me souviens que je me suis demandé en France, est-ce que je veux étudier une école de journalisme ou de cinéma?
Et pourquoi est-ce qu'il a gagné justement le cinéma?
Ah, je pense qu'on peut prendre plus de liberté quand même au cinéma. Il y a plus de fantaisie. Vous pouvez. Les choses sur lesquelles j'écris souvent, mes scénarios que j'écris, ils sont assez autobiographiques, mais en même temps, ils sont aussi romancés. Ça veut dire qu'il y a une partie de réalité qui me plaît dans le journalisme, mais une partie
de création
que dans le journalisme est un peu plus difficile à développer, mais elle est possible.
Alors justement, vous dites voilà, que vous réalisez des films, vous écrivez des scénarios, vous en avez déjà écrit beaucoup justement pour la télévision tchèque notamment, mais vous travaillez alors surtout... Vos films, vous les faites ici, en République tchèque, si j'ai bien compris. Vous.
Ouais.
En France, c'est le montage, notamment, alors pour les auditeurs qui le savent, puisqu'on l'a interviewé l'an dernier dans le cadre du festival de Carlo Ivari, le film Welcome de Philippe Yoret. Ça, c'est vraiment le dernier, disons, donc qu'on pourrait citer, qui a eu un bon succès en France.
Pour lequel j'étais
nommé
au César.
Et pour lequel vous étiez nommé au César, exactement, j'allais le dire. ce qui n'est pas une mince affaire, voilà. Et donc vous tournez des films ici en République tchèque. Vous, c'est un peu schizophrène ou alors finalement vous arrivez à gérer les deux?
C'est une schizophrénie très assumée. Moi, j'aimerais bien, si un jour j'ai un sujet qui se passe en France, qui me passionne, je me mettrai avec un grand plaisir à l'écrire. Mais en fait, jusqu'à maintenant, chaque fois que j'ai une idée, elle se passe ici. Là, j'ai un scénario que j'ai fini il y a un an et demi, qui est sur le dopage dans les années 80 de le sport tchécoslovaque communiste. Évidemment, j'aurais pu écrire un film ce qui se passe sur le dopage en France, mais voilà. Moi, tout de suite, l'intrigue, elle se liait autour de la police secrète, parce que chez nous, en fait, c'était assez particulier parce que le dopage était organisé par l'État. Du coup, je trouvais ça beaucoup plus intéressant, etc. Voilà. Là, j'écris une adaptation d'un bouquin tchèque, qui s'appelle Les Lâches de Josef Škvorecký. Voilà. L'auteur m'a proposé, en fait, de l'adapter. C'est un très grand honneur. J'ai dit oui, évidemment. Voilà, je fais ça, je suis très heureuse de faire ça. Et en France, on me propose beaucoup de choses très intéressantes à monter. En fait, des films magnifiques. Et j'ai pas envie de dire non. Et je sais que si je commencerai à réaliser en France, je pourrai plus monter. Ça, c'est pas possible. En France, vous pouvez pas mélanger les genres.
Comment ça se fait?
C'est très casté en France. Vous pouvez pas, même moi, je peux pas monter un téléfilm, par exemple, parce que, voilà, c'est casté, vous êtes monteuse de cinéma, vous n'êtes pas monteuse de télévision, etc.
Ici, c'est plus flexible, en Tchéquie.
Oui, tout est beaucoup plus mélangé. En République tchèque, pas seulement ça. Ça fait d'ailleurs partie de plaisir de la vie tchèque, je trouve.
Et de son charme.
Ouais. Voilà, je l'assume complètement. Je me dis que ce sera plus simple pour ma famille, mes enfants. Sûrement, ce sera au niveau financier beaucoup plus avantageux de réaliser des films en France. Mais c'est comme ça. Et peut-être un jour, ça changera. Mais pas dans les mois qui viennent.
Finalement, c'est peut-être aussi une manière de combler cette oscillation entre Paris et Prague, entre le monde français et le monde tchèque. Finalement, c'est une façon de ne pas faire de choix radical et de rester...
Après 89, il y avait énormément de gens qui disaient « je vais essayer de vivre entre les deux ». Et il y en a très peu qui ont réussi, parce qu'aussi il y a très peu de métiers qui permettent ça. Et moi, j'ai l'impression à peu près réussir ça, même si c'est très difficile... Mais grâce spécialement maintenant aux low cost, aux compagnies aériennes low cost, c'est beaucoup plus simple quand même.
C'était la réalisatrice française d'origine tchèque Andrea Sedláčková. Retrouvez cette interview, en tout cas sa deuxième partie, dès la semaine prochaine dans Culture sans frontières. La musique qui accompagnait cet entretien est tirée de son film Rytmus v patách. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc. Jarka Gisubelová.
Envie d'une découverte insolite de Prague ? Aujourd'hui, je vous propose une balade sur la Vltava à bord d'un bateau historique de la compagnie de navigation fluviale pragoise, PPS, qui vient de fêter le 145e anniversaire de sa fondation. Le coup de sifflet au départ de notre bateau est donné. Nous partons du quai Rachin. L'embarcadère est situé sous le pont Palatsky, près de la maison dansante construite par l'architecte américain Frank Gehry, en voisinage immédiat de l'immeuble Art Nouveau appartenant à l'ancien président Václav Havel. À bord d'un bateau, on a tout son temps pour admirer les bâtiments qui défilent autour. Si vous profitez d'une balade commentée, les guides vous livreront les secrets de cette rivière et vous raconteront l'histoire de la marine de la Vltava. Notre guide aujourd'hui, Dušan Sahula, directeur de la compagnie de navigation fluviale de Prague, observe qu'au début, les bateaux étaient un moyen de transport quotidien.
Ve 30. letech to byla opravdu plnohodnotná forma dopravy, protože ta...
Dans les années 1930, c'était une sorte de trafic à part entière, étant donné que le réseau des moyens de communication n'était pas aussi dense, tandis qu'aujourd'hui, le bateau est devenu une des attractions touristiques de Prague, un amusement en quelque sorte.
Ještě v dnešní době už se to opravdu překlopilo do turistických výletů, že to je spíš jako zpestření času.
À quelques exceptions près quand même, dans les années 1975, 1982 et puis encore en 2008, les transports en commun à Prague ont utilisé les bateaux pour remplacer des trams mis hors service en raison de travaux de reconstruction des rails. Les premiers bateaux à vapeur ont été mis à l'eau dans la Vltava il y a 145 ans de cela, à la fin du mois d'août 1865. Pour fêter cet anniversaire, la compagnie PPS a proposé le 28 août des balades gratuites à bord de trois bateaux aubes historiques, le Vltava, baptisé du nom de la rivière Vltava, le Vyšehrad, nom du premier château des princes tchèques érigé sur un éperon rocheux au-dessus de la rivière, et le Šumava, nom du massif montagneux dans le sud de la Bohême. Le bateau Vltava était fabriqué dans le chantier naval de Libeigne il y a 70 ans de cela et est avec le Vyšehrad le plus ancien bateau de République tchèque. Au cours de la décennie écoulée, les deux ont été complètement modernisés tout en respectant leur aspect d'origine et en les donnant des systèmes de navigation automatique les plus modernes. La marine pragoise a vu le jour en 1865, mais déjà en 1841, le constructeur de navires et entrepreneur britannique Joseph John Raston a présenté aux Pragois le premier bateau, le Bohemia, conçu spécialement pour la ville de Prague. Le mérite de John Joseph Raston dans le développement de la navigation fluviale consiste par ailleurs aussi dans l'implantation dans le quartier pragois de Karlin des usines mécaniques portant son nom, Roustanka, et où étaient fabriqués des ponts, des machines à vapeur, etc. La compagnie de navigation pragoise possède 27 bateaux de grande taille qui transportent près de 500 000 personnes chaque année. Le plus souvent, il s'agit de croisières sur la Vltava dans le centre de Prague autour des îles et sous les ponts et de sorties au zoo de Troya. Ensuite, il y a les lignes régulières reliant Prague à Mielnik au nord et à la station de villégiature de Štěchovice dans la direction sud. La circulation sur la Vltava est vraiment animée, souligne Dušan Sahula.
Obecně na Vltavě je 30 velkých lodí a myslím si tak do 50.
La marine compte quelques 30 bateaux de grande taille, mais le nombre de bateaux sur la Vltava est plus élevé. Il doit approcher de la cinquantaine. J'ai à l'esprit, bien entendu, la navigation à des fins commerciales. En plus, il y a un grand nombre de clubs de yacht et de clubs d'aviron. Ainsi donc, on peut parler de centaines de bateaux qui sillonnent les eaux de la Vltava.
Veslařských klubů, jachtařských klubů, takže bych řekl, že kompletně lodí je ve stovkách řádově.
Comment faire pour éviter un accident? La navigation fluviale est soumise à un code de navigation similaire au code de la route. Les voies de navigation sont marquées par des balises. Or, dans certaines situations, la pratique peut être différente, souligne le chef de la marine pragoise.
Kdo má přednost? Protiproudní plavidlo platí jakoby z řádu plavební bezpečnosti.
Si vous me demandez qui a la priorité, c'est le bateau qui navigue à contre-courant. Cela découle de la logique de la sécurité de navigation, mais ici, sur la Vltava, c'est surtout la loi du plus grand qui prévaut.
L'endroit le plus compliqué pour les bateaux se trouve sur le plus ancien pont pragois, le pont Charles, qui enjambe la Vltava depuis déjà le milieu du XIVe siècle. C'est ici que la rivière, dont la largeur à Prague varie entre 100 et 500 mètres, est la plus étroite.
Při průjezdu Karlovým mostem se ta loď nahlásí, všechny plavidla jsou povinně vybavena vysílačkou.
Lors du passage sous le pont Charles, le capitaine est obligé d'identifier sa position par une station radar à bord et d'informer par quelle voie de navigation il s'apprête à passer, et ce pour que le reste de la flotte pragoise lui fasse de la place.
L'histoire de la marine pragoise ne connaît heureusement aucune collision, sauf un gros accident qui s'est produit en 1898 et au cours duquel le bateau à vapeur François-Joseph Ier a explosé. Une curiosité qui captive l'attention de chaque passager, c'est le passage des bateaux par l'écluse située au pied du pont des Légions. C'est là aussi que se trouve la statue allégorique Vltava, lieu de cérémonie du souvenir à tous les noyés dans les rivières tchèques. Mais revenons encore au début de la navigation pragoise, la ligne la plus ancienne en service depuis 1865 est celle de Prague-Štěchovice, longue de 30 km. Chaque jour, à 4h15 du matin, un bateau avec à bord des fermiers approvisionnant la métropole par leurs produits partait de Štěchovice. Son importance a baissé avec l'introduction des services d'autobus dans les années 1930. Ces années-là ont été des années noires pour la marine pragoise qui ne comptait alors que 5 bateaux. En revanche, une renaissance s'est produite après la fin de la guerre. Le nombre de bateaux à vapeur a alors atteint le chiffre record de 28. Dans les années 1960, le parc fluvial a été modernisé, les bateaux à vapeur ayant perdu leur popularité. Les vapeurs n'ont pourtant pas disparu de la Vltava, sauf qu'aujourd'hui, ils ne fonctionnent plus au charbon, mais au mazout. La vitesse maximale de ces bateaux se situe autour de 20 km à l'heure. Et qu'en est-il de l'avenir de la marine pragoise? Pour la prochaine saison, la 146e déjà, la compagnie de navigation pragoise prépare la mise en service de bateaux à propulsion électrique et à énergie renouvelable, dont le tout premier bateau solaire en République tchèque. En attendant, vous pouvez toujours profiter des balades en bateau, car la saison sur la Vltava ne se termine pas avant le 31 octobre.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0.30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.